Vous le savez sans doute, MacG fête ses 25 ans cette année, un quart de siècle pour ce site qui a bien évolué au fil des ans. Les articles sont partagés entre trois différents sites qui ont récemment eu droit à un gros ravalement de façade. Nos développeurs ont mis les bouchées doubles pour proposer une nouvelle interface plus moderne, se rapprochant plus de celle du site du club IGN. Ce n'est pas tout, et le processus de connexion était revu grâce à l'arrivée d'IGN Connect. Si nos sites ont fière allure, il est toujours intéressant de jeter un coup d'œil dans le rétro pour voir le chemin parcouru. Pensez-vous, What Generation n'a été lancé qu'en 2014, tandis qu'iGeneration s'appelait autrefois iPod Generation. En 2024, comment fonctionnent les coulisses de MacG? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Kernel Panic. Pour en discuter, je suis aujourd'hui avec Christophe, fondateur de Mac Génération, qui va plonger dans ses souvenirs pour nous parler des débuts du site. Salut Christophe.
Salut Félix, bonjour à tous.
Et je suis également avec Cédric et Robin, nos deux développeurs à qui l'on doit ces nouveaux sites. Bonjour messieurs.
Salut.
Salut.
Christophe, on va commencer par le commencement. MacG, au tout début, ça fonctionnait comment? C'était un blog, un site codé à la main?
Il était une fois. Tu convoques de vieux souvenirs. Donc, on va essayer. Non, mais c'est marrant parce que tu dis que c'était un blog, mais en fait, la notion de blog, elle n'existait pas vraiment à l'époque. D'ailleurs, j'ai fait des recherches. Le terme blog, il paraît qu'il commence effectivement à apparaître à la toute fin des années 90, mais ça devait être un terme qui était connu par quelques initiés. Et surtout, quand j'entends blog, c'est la technologie derrière qui permet de... publier facilement du contenu. Quand on a commencé Mac Génération, c'était pas du tout ça. Grosso modo, on se connectait à un serveur via un logiciel de FTP.
Ouais.
Et on avait plein de fichiers HTML qu'on éditait. Donc, par exemple, il devait y avoir sans doute un fichier qui s'appelait index.html, qui était la page d'accueil. Et sur la page d'accueil, on faisait du copier-coller. Et lorsqu'on écrivait un article, on devrait dire une brève, parce que l'époque, c'était quand même pas très long. Donc, on copiait un bloc, on le dupliquait, on remplaçait le contenu. Et on va dire que c'était quand même assez fastidieux, parce qu'on faisait vraiment tout nous-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, sur la page d'accueil, il y avait nos articles. Et donc, il y avait également un système d'archives. Les archives, c'était entièrement manuel, donc il fallait faire des copier, des coller. Alors, il faut se mettre en plus en 1999, même si ça commençait à aller mieux avec la DSL, les connexions n'étaient pas très stables. Les Mac, on était encore sur système 9, donc ça pouvait planter comme ça, et il fallait peut-être tout redémarrer sur un coup de tête. Donc, c'était... c'était pas simple. En plus, on travaillait à l'époque, on avait passé un accord avec un site américain qui s'appelait McKinnon. Et donc, McKinnon nous autorisait à piocher dans leur contenu. Et c'est surtout eux qui nous hébergeaient. Donc, en plus, le site était géographiquement parlant aux États-Unis. Donc, déjà, ça posait des problèmes de rapidité à la connexion. On était aussi dans une époque où les serveurs, la bande passante, tout ça, c'était quelque chose d'extrêmement restreint. Et donc, eux, ils étaient sympas de nous faire une petite place. Par exemple, on a assez rapidement installé un logiciel de forum. Et les forums, par exemple, ramaient très souvent parce que les machines étaient surmenées et évidemment, ils ne mettaient pas la plus haute priorité en termes de performance au niveau des forums. Alors, je me suis rappelé, je ne sais plus pourquoi, je crois que j'en parlais avec Anthony il n'y a pas très longtemps. À l'époque, notre logiciel chouchou pour éditer les pages web, c'était GoLive, qui a été ensuite, je crois, racheté par Macromedia, qui s'en est servi pour faire Dreamweaver, qui à la fin a fini dans l'escarcelle d'Adobe. Donc tout ça pour dire que les premiers mois, ça a été c'était pas simple de publier des articles. Et puis dans les premières années de Mac Génération, il y a un développeur qui nous a rejoint qui s'appelait Stéphane Mégy, que je salue s'il nous écoute, et il a développé le premier CMS de l'histoire de Mac Génération. Donc CMS, c'est l'outil qui permet de publier de manière relativement simple une actualité. Donc concrètement, on avait un formulaire avec un titre, une heure de publication, un champ article dans lequel on pouvait publier des news, on va dire, de oui, enfin, c'était hyper moderne à l'époque. Enfin, ça, on était vraiment, on venait vraiment d'avoir un vrai, on commençait à avoir un véritable workflow. C'était les premières pierres à l'édifice. Ça a été un vrai gain de temps pour nous. On pouvait se concentrer sur ce qui était le plus important, à savoir le contenu. Mais je me souviens que même à l'époque, enfin, ça peut paraître risible, mais dans les premières années de Mac Génération, c'était extrêmement compliqué de faire des articles avec des images. C'était il y a 25 ans maintenant, comme ce qu'on dit. Ça peut paraître complètement dérisoire à l'époque. À l'époque, maintenant, du Retina, des écrans 4K, 5K, tout ça. Mais même, c'était compliqué. Et pour finir, parce que histoire de ne pas faire un monologue de 30 minutes, en 2004, on a lancé iPod Génération. Je crois que c'est 2004 maintenant, j'ai un doute maintenant qu'on le dit. Et à l'époque, donc Cyril, qui est donc l'autre cofondateur de Mac Génération, il était en contact avec un développeur ukrainien qui s'appelle Maxime. Et donc lui, il a développé, c'était lui qui avait fait le site de A à Z, et il a utilisé comme CMS Drupal. Et c'est pour ça que je vais jusque-là. Drupal, ça a été, c'est encore, on va dire, la pierre angulaire de Mac Génération. Pour le meilleur et pour le pire.
C'est vrai que toi, tu as rejoint Mac Gen en 2009. Ça tournait déjà sur Drupal, du coup, à l'époque ?
Alors, iGénération, ouais. Enfin, à l'époque, ça s'appelait encore iGénération.
Ouais.
Oui, alors lui, il tournait sur Drupal 6 à l'époque. Moi, je suis arrivé, je pense qu'on était déjà... sur la fin de vie de Drupal 6. Okay. MacG, lui, tournait toujours sur du coup, le CMS maison qui avait été fait par Stéphane, du coup, qui, lui, tournait avec le framework Zend, pour ceux qui connaissent. Ouais, alors moi, quand je suis arrivé, voilà, c'était un peu ça l'état des lieux. Moi, j'étais en fin de master. Du coup, bah, mes premières missions, c'était principalement de maintenir tout ça, parce que bon, il y a toujours des petites choses à rajouter, des petits bugs à corriger. Mais très vite, on a eu... comme mission, bah, du coup, de passer sur Drupal 7, du coup, iGénération, et en même temps de migrer Mac Génération sur Drupal 7.
Ouais.
Donc, ça a été la grosse première mission. Ça, avec en plus à côté, on avait envie de refaire le service du refurb, le site de refurb Génération. Mmh. Du coup, il a vu le jour dans les premières années où je suis arrivé à MacG.
Ok, et Drupal, ça tourne encore, au fait ? Enfin, il y a... ou c'est mort ? Enfin, pas pour nos sites, je veux dire, mais genre, ils continuent de développer, il y a Drupal 10,
ah ouais,
Drupal 11.
Ouais, ouais.
Ok.
Ouais, c'est toujours un des plus gros CMS utilisés dans le monde, toujours derrière WordPress, mais c'est quand même très, très utilisé. Je crois qu'on est à 11 ou 12, Drupal 11 ou 12, okay. Donc non, ça tourne bien, ouais.
Pour compléter ce que dit Cédric, en fait, parce que je vais oublier personne, parce qu'on parle un petit peu de l'histoire de MacG, c'est que le CMS de Mac Génération a été ensuite amélioré et revu, enfin par retouche, à la fois par Guillaume Slug de la Mac Game Zone, et puis par Yves, qui était le développeur avant que Cédric et Benjamin arrivent au sein de Mac Génération. En fait, nous, c'est vrai qu'à l'époque, on a eu, à cette époque-là, on s'est posé la question, à savoir, parce que mine de rien, dans les premières années, la technique, au niveau de Mac Génération, on va dire que ce n'était pas notre fort. Et non seulement ce n'était pas notre fort, pourtant, on avait des profils. Enfin, moi, j'avais quand même passé, j'avais fait un DUT informatique, donc je savais développer, même si je n'avais pas du tout été formé aux technologies du web, parce que ça correspondait juste au moment où elles commençaient à apparaître. Voilà, on s'était posé la question, à savoir, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait, on continue dans la voie de Mac Génération et on réalise notre propre CMS, à la fois pour Mac Génération et Génération, ou est-ce qu'on se base sur un existant, une brique qui existe déjà et qu'on met à notre sauce ? Et donc ça, c'est le choix qu'on a fait à ce moment-là avec Drupal. Et donc là, l'idée, effectivement, c'était, comme l'expliquait Cédric, de tout passer sur Drupal 7 et de rapprocher les architectures techniques de Mac Génération et d'iGénération.
Je vais rajouter un truc, c'est que Yves aussi a sorti la première application mobile sur iOS,
ouais.
C'était à cette époque-là, quoi. Du coup, c'était Yves, du coup, qui avait géré le développement aussi de l'application.
D'accord.
Et du coup, quand moi je suis arrivé, c'est là où il y a eu un peu un tournant, c'est qu'on Christophe a pris un développeur plutôt avec un profil web, donc c'était moi, et du coup un développeur avec un profil plutôt iOS. Voilà, donc du coup pour être à plein temps, enfin à l'époque on n'était pas vraiment à plein temps, on était en stage, mais c'était voilà, c'était pour aussi c'est là où ça a été séparé les développements.
Et pourquoi avoir choisi Drupal et pas avoir choisi WordPress à l'époque? C'était pas il y a eu le,
alors,
il y a eu le débat
à l'époque, j'en sais rien. Je sais pas, Christophe, t'as peut-être une idée, toi.
Mais je, en fait, je, oui, si WordPress devait fatalement exister, peut-être en, à ce moment-là. Mais WordPress à l'époque, enfin, je parle, enfin là, les souvenirs sont un petit peu flous, hein. Mais dans mon esprit, à l'époque, WordPress était vraiment pour des blogs. Et nous, on était quand même sur des sites un petit peu plus complexes que ça, avec une page d'accueil, des différentes sections, des rubriques, avec certains besoins particuliers. Ce qui faisait que WordPress n'était pas forcément quelque chose qui... c'était pas une évidence, en tout cas.
J'ai peut-être un exemple concret. Il me semble qu'à l'époque, Drupal était le seul où on pouvait facilement créer un formulaire de contenu vraiment hyper personnalisé, avec des champs... une multitude de champs, par exemple, pour nos tests. On a tout le champ cartouche, c'est vraiment des champs dans la base de données qui sont... uniques, enfin voilà, qui sont personnalisés. WordPress, c'était trop compliqué, voire de mémoire, c'était même un peu de la bidouille à l'époque pour pouvoir un peu modifier ces formulaires-là. Drupal, c'était quand même très simple et très propre et carré.
D'accord. Robin, toi, t'es arrivé plus tard en 2019. Tu t'es bien occupé du site du club. C'était quoi l'idée? Tu t'es inspiré de quoi? Est-ce que le projet était déjà bien avancé quand t'es arrivé ici?
Ouais, bah moi, du coup, je suis arrivé. Quelques mois avant le Covid. En fait, quand je suis arrivé, donc le site du club était, je dirais, terminé à 80%.
Ouais.
Sachant que toute la partie visuelle était déjà faite. La partie qui se connecte à Drupal pour pouvoir se loguer, la partie de gestion des news, tout ça, c'était fait.
Ouais.
Mais ce que j'ai terminé avec Cédric, c'était la partie pour s'abonner, et pas mal de petits fignolages qu'on fait qu'on pouvait sortir l'app. Mais oui, je suis arrivé quand même assez tard, donc j'ai eu assez peu d'impact sur le design de cette version-là du club, sachant qu'après on a refait un peu les thèmes, donc là j'avais changé un petit peu plus de trucs.
Donc là, du coup, on est passé sur les nouveaux sites il y a quoi, il y a 2 mois, 3 mois maintenant?
Vers l'été, ouais. Dans sachant l'été, qu'on les a un peu libérés un à un, on a commencé par Web Génération, donc celui qui faisait un peu le moins de trafic pour un peu essayer de l'éprouver, voir comment ça réagissait. Et après, je crois qu'on a fait iGénération et après MacGénération.
Oui, c'était MacG en dernier, ouais. Et donc ça, c'est un projet qui a passé combien de temps en cuisine?
Plus d'un an.
Plus d'un an.
Ouais, même ouais, beaucoup plus d'un an, je pense.
Bah en fait, il y a eu toute la partie réflexion où là, par contre, ça a duré assez longtemps parce qu'il fallait qu'on se décide. C'est est-ce qu'on continuait sur Drupal? Est-ce qu'on passait sur un autre CMS? Ou est-ce qu'on faisait un tout maison comme on a fait là? Et après... ce qui a fait que ça a duré quand même plus d'un an, c'est que vu qu'on est parti sur un tout maison, fallait développer un peu tout en même temps. Fallait développer le SSO qu'on a là maintenant, fallait le développer aussi. La nouvelle API pour les news, fallait la développer là maintenant. Et donc c'est ce qui a fait que le processus a été peut-être assez long, vu qu'en fait on a dû à chaque fois paralléliser les développements.
Et on est que au début. Au final, la roadmap est longue. Parce que là, on est vraiment dans une phase de transition, c'est-à-dire qu'il y a encore un peu de Drupal derrière pour quelques fonctions. Et du coup, et nous, par-dessus, en fait, on a une couche qui permet de convertir les données pour les nouveaux sites. Et on a les nouveaux sites qui, eux, sont vraiment tout neufs. Et du coup, l'idée, après, c'est de complètement supprimer Drupal. Et voilà, et d'avoir, du coup, un tout nouvel écosystème, une toute nouvelle architecture qui tourne sur des nouveaux serveurs. Parce que là, du coup, on est encore en transition. On a encore des anciens serveurs avec un peu de Drupal. Et puis, on a les nouveaux serveurs qui tournent avec les nouveaux sites et API.
En fait, c'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai raconté l'histoire de MacGénération, je me suis arrêté jusqu'au moment où on a commencé à adopter Drupal. En fait, Drupal, pour nous, c'est un peu devenu, au fil des années, notre Internet Explorer 6. Une sorte d'usine à gaz qui nous a rendu service. Attention, on n'est pas là forcément pour critiquer de manière bête et méchante. Mais on arrive à un moment où on se dit, bon, nos besoins évoluent, il faut peut-être qu'on passe à autre chose. Et en fait, on aurait pu très bien rester sur Drupal. Mais voilà, donc on était sur Drupal 7 et passé à Drupal 8. Grosso modo, enfin, donc là, je pars toujours sous le contrôle de Cédric et de Robin. Ça nécessitait de tout refaire quasiment, de repartir quasiment de zéro. Donc on s'est dit, bon, est-ce que ça vaut le coup de tout redévelopper sous Drupal ou est-ce que bah, il faut profiter finalement de ce qui nous apparaissait un problème et d'en dire, bah, voilà, bah, c'est une opportunité et finalement de faire, enfin, d'adopter une architecture quelque part qui est beaucoup plus moderne. Alors, pour les gens qui sont pas forcément spécialisés dans le web, hein, y a ce qu'on appelle le front et le back. Grosso modo, le front, c'est ce que vous voyez, c'est les pages web, c'est ce que vous consultez. On va dire que c'est le moteur d'affichage. Et le back, c'est tout derrière. Donc, c'est les bases de données avec les articles, ce genre de choses. Et donc, l'idée, grosso modo, ça a été de séparer à terme ces deux-là, ces deux aspects-là, pour que si on a envie de changer de noyau pour la gestion et la publication des news, on puisse très bien le faire. Comme si, on se dit, comme si, par exemple, imaginons, dans deux ans, on se dit il y a une technologie pour l'affichage des actualités qui est beaucoup plus performante, on puisse changer ça facilement sans forcément qu'il y ait tout recassé derrière. Donc, grosso modo, là, à l'heure actuelle, c'est un énorme chantier. C'est un chantier qui vous a pris énormément de temps et qui nous a obligés à mettre sur pause certains projets, ce qui fait que, par exemple, l'application du club a pris notamment du retard. Mais à terme, ça va nous permettre d'être plus réactifs, plus agiles et de pouvoir mieux cibler telle ou telle plateforme.
Ok. Parce que ce qui se passait avant, c'est que les moteurs des sites, en fait, il y avait trois sites différents qui cohabitaient, trois Drupal différents avec chacun ses articles à l'intérieur. Ces articles-là, en fait, sont le cœur de ce qui est consommé par l'utilisateur. Mais le site n'est qu'un moyen de les consommer parmi tant d'autres, parce que maintenant on a le site du club qui va consommer ces articles-là. Les applications, que ce soit les applications métiers qu'utilisent les journalistes pour publier, ou que ce soit l'application iOS qui est utilisée par les lecteurs. Et le fait de vouloir séparer un peu ces choses-là, ça rend le tout plus cohérent et plus maintenable, parce que si jamais il y a un problème avec les articles, on va corriger les articles. Les sites ne font qu'afficher les articles.
Voilà, ouais, c'est ça. Ok. Donc ouais, t'as différentes briques, et s'il y a un truc qui pète sur une brique, t'es pas obligé de...
Voilà, mais en fait, c'est plus facile pour identifier où est-ce que ça a pété.
Oui, aussi. Ouais.
Mais après, le corriger plus rapidement. D'accord. Mais du coup, l'inconvénient que ça avait, c'est qu'on a dû faire tout cohabiter. Et c'est ce qui a pas mal aussi ralenti les choses, c'est bah, faut que les journalistes puissent continuer à travailler. Donc, faut que Drupal continue à marcher et que nos nouvelles API s'adaptent à Drupal pour pas qu'on ait de coupure, parce qu'on pouvait pas se permettre d'avoir une coupure.
Oui. Ok.
Et l'une des idées à terme, parce que c'est quelque chose dont on souffre et qui fait partie de l'héritage de Drupal et qui est un choix, on va dire, c'était notre choix initial, c'était lorsqu'on a décidé de tout passer sur Drupal, c'était de séparer les bases de données de Mac génération et 10 génération. Alors concrètement, pour le faire très simplement, c'est par exemple, Félix, lorsque tu écris un article, tu choisis au début, je vais le publier sur Mac génération, et génération, Mac génération. Une fois qu'il est publié, j'ai envie de dire c'est trop tard. Imagine que tu publies un article sur iGénération alors que tu voulais le publier sur Mac génération. On ne peut pas revenir en arrière. Tandis que là, l'idée, c'est, ça fait partie des choses sur lesquelles on va travailler dans les mois qui viennent, c'est qu'on aura une base de données unique pour tous les sites. Et on pourra, si on le souhaite, en dire « Ah non, on s'est trompé, cet article n'était pas pour iGen, il était pour WebG. » On pourra re-recouter un article et dire bah, « Finalement, tu apparais sur WebGeneration et pas sur iGeneration.
» Est-ce que vous avez eu de grosses galères sur ce chantier-là?
Pas de grosses, mais plus des choses auxquelles on n'avait pas spécialement pensé. Enfin, si, on y avait pensé, mais du coup, par exemple... quand on fait des tests de montée de charge pour tester une API, on les teste d'une certaine manière. Et quand on avait lancé Watt Generation, on s'était rendu compte qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas prévues, qui ont fait que l'API, elle s'est fait submerger alors, par le peu de visites qui étaient sur Watt Generation. Et du coup, on appelait ça une grosse galère qui a été réglée très vite. Mais du coup, c'était un truc qu'on avait très anticipé. Et au final, on avait quand même...
quand même été surpris.
Ouais, quand même été surpris, ouais. Et heureusement qu'on a commencé par What Generation, du coup.
Ok, ouais.
Qui a quand même moins de trafic que les autres. Et surtout, dans des moments où il y avait moins d'actu, on a pu voir venir plein de choses. Ce qui fait que, quand on a lancé IGN et MacG, on était hyper serein. Il y a eu vraiment... Ouais, là, ça a roulé, quoi. On était plutôt tranquille. Ouais.
C'était plus une succession de petites et de moyennes galères qu'une grosse galère.
D'accord, ouais, ok.
Parce qu'autant on a pu avoir des fois des transitions qui étaient compliquées,
douloureuses.
Autant celle-ci, c'est quand même passé enfin, de manière... Oui, on ne va pas dire indolore, mais on ne s'est pas retrouvé à 3h du matin de ne pas comprendre qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi il y a tel ou tel serveur qui est à 200 de charge et que même en l'éteignant, il continue à mouliner dans le vide. Donc non.
Du coup, là, la transition, elle est complètement terminée ou il reste... Enfin, oui, vous avez dit qu'il restait encore du Drupal, mais à quel niveau? Est-ce qu'on va bientôt se séparer de Drupal complètement?
Il y a encore du boulot, ouais. En fait, là, on a toujours pas fini, en fait, l'ajout des fonctionnalités sur les nouvelles API. Il manque encore des fonctionnalités pour qu'après, on puisse migrer... En fait, un des gros morceaux qui va rester à faire, c'est de migrer les données de Drupal vers la nouvelle base de données. Voilà. Et du coup, ça, c'est un peu la dernière étape. Et la grosse étape d'avant, c'est du coup de développer toute l'admin pour les journalistes qui est en cours de développement. Du coup, c'est pour ça qu'on se sert encore de Drupal pour toute la partie back office. En gros, c'est les grandes lignes. Ouais.
Ok.
Et tout dans la logique, il ne faut pas qu'il y ait d'interruption. Il ne faut pas qu'il manque de fonctionnalités sur l'admin que vous aviez sur Drupal avant, parce que sinon,
ça va être compliqué. Ouais.
C'est des grandes lignes, mais c'est un travail. Vous n'allez pas vous ennuyer dans les mois à venir, j'ai l'impression. C'est quand même.
Non, ça va.
C'est quand même un très, très, très gros chantier.
Oui, j'ai l'impression qu'une grosse partie des sites web utilisent WordPress. The Verge, par exemple, il me semble qu'ils ont passé leur CMS sur WordPress alors qu'avant ils étaient sur un truc maison. Du coup, c'est quoi l'intérêt de tout redévelopper en interne et de partir de zéro? Pourquoi pas juste avoir pris WordPress comme tout le monde et simplifier la vie un peu, j'ai l'impression?
Félix, tu l'as dit, c'est comme tout le monde. Comme tout le monde. Alors, je me permets juste un petit retour en arrière. Je ne sais plus pourquoi, je ne sais plus qui c'est qui a eu l'idée, mais notre cheval de bataille pendant des années, ça a été, on est un site qui parle de Mac, on veut être hébergé sur Mac. Surtout, on a fait ça à une époque où on avait beaucoup moins de ressources techniques que maintenant. Et faire des choses qui étaient, on va dire, d'une simple... Non, c'était pas simple, mais des choses qui étaient faisables, on va dire, sous Linux, sous macOS 10 ou sous macOS 10 Server, avec je ne sais trop quel logiciel, ça tenait du miracle quand ça fonctionnait. Donc non, voilà. Mais à la fin, c'est vrai que on parle beaucoup de WordPress. WordPress, c'est peut-être, même pour les gens, enfin, non initiés, c'est peut-être c'est une marque qui est reconnue et les gens voient à peu près ce que c'est. Mais j'ai pas l'impression que forcément WordPress est la solution ultime à tous les problèmes. Et The Verge, j'utilise peut-être, mais j'ai l'impression qu'ils ont malgré tout un budget, développement. Qui est ultra conséquent et je pense pas que c'est un WordPress tout bête qui fait tourner leur site.
Ouais.
Et puis par rapport à WordPress, quand on a fait un peu une étude pour voir qu'est-ce qu'on allait utiliser, il est venu sur la table WordPress et surtout il y a une contrainte chez MacG, c'est que du coup les articles, ils ont des modèles qui sont assez compliqués. Dans le sens où des fois il y a des sondages qui vont se greffer dans un article, des fois il y a un podcast, des fois il y a des notes de test, et tout ça en fait ça implique de bricoler WordPress, que ce soit avec des plugins ou de bricoler soi-même WordPress, et souvent ça crée plus de problèmes à la longue que ça en résout. Et passer par des plugins WordPress, WordPress a beaucoup de qualités, les plugins, mais c'est aussi son principal défaut, c'est que les plugins WordPress c'est des passoires en termes de sécurité. Et du coup, c'était plus cohérent pour nous donc, de faire ça un peu nous-mêmes.
D'accord. Okay, okay.
Puis, y a, ouais, c'est aussi tout notre historique, je pense, qui nous a amené à faire tout nous-mêmes aussi, parce que vu qu'on a, pendant des années, on a fait du CMS, on a fait aussi beaucoup de from scratch, justement pour appuyer le truc des modules. Mais sur Drupal, il y avait beaucoup de modules, il y en avait qui nous servaient, qui étaient géniaux, qui nous, du coup, nous faisaient gagner du temps de développement, mais derrière, il y avait toujours un truc qui manquait. Et ouais, du coup, on était toujours à patcher les modules, à rajouter des fonctionnalités, à développer nous-mêmes nos modules. Je crois que Drupal, je vais pas dire une bêtise, mais il doit y avoir une vingtaine de modules maison qu'on a créés pour ajouter des fonctionnalités. D'accord, à chaque fois à Drupal, que voilà, que ce soit pour Christophe, pour de la publicité ou même pour les journalistes, pour avoir des choses en plus que Drupal ne proposait pas de base. En fait, du coup, ça, du coup, on rajoutait plein de codes à droite à gauche, alors que en from scratch, finalement, un site de news, oui, il y a des champs différents pour chaque news. Enfin, on gère du contenu, mais on n'a pas des fonctionnalités non plus de très très complexes. Oui, quoi. Ouais. Ça reste de la gestion de contenu. Donc du coup, on trouvait ça plus adapté, du coup plus léger. C'est là on gagne. Enfin, les API tournent sur des serveurs là où avant on avait 4 serveurs qui faisaient tourner Drupal pour gérer un peu toute la communauté avec tout le cache qu'on avait, du cache utilisateur, du cache non connecté. Là, ça tourne sur une infrastructure beaucoup plus petite.
Ouais.
Et on est encore dans des zones, on a fait la WDC, on a fait les keynotes de septembre, où on sait que c'est des gros pics de trafic, où on a eu quand même des petites galères, mais globalement, on est sur des beaucoup plus petites infrastructures qu'avant. Et que c'est en plus les galères qu'on a eues en septembre, c'était Drupal qui nous les...
Okay.
C'était ce qui tournait encore sur Drupal. Donc en fait, tout ça, avec notre historique et nos besoins, on s'est dit que même si sur le papier, probablement qu'un pro de WordPress nous dirait que c'est peut-être mieux, ou je ne sais pas, nous, notre expérience nous a montré que faire des microservices développés en interne, on maîtrisait beaucoup plus, et puis aussi parce que l'équipe de dev, elle est là quand même depuis longtemps. Donc du coup, il n'y a pas trop de turnover, du coup ça implique, on maîtrise aussi beaucoup, bien très bien le code.
Ouais.
et notre infrastructure, quoi. Et du coup aussi, je vais rajouter un truc qui a été qui appuie encore tout ça, c'est que dans l'histoire de ma génération, on s'est retrouvé par choix à gérer aussi nous-mêmes nos serveurs et tout ce qui fait tourner les sites internet, donc tout ce qui est les machines et j'appellerais ça le sysadmin, mais je sais pas trop ce que c'est exactement. Mais du coup, de comprendre aussi comment ça tout marche et de se former en autodidacte sur toute cette gestion-là, du coup, ça nous a permis d'être aussi en adéquation. Quand on développe un site, on sait derrière l'infrastructure qu'il lui faut, et du coup, on arrive à créer du coup une infrastructure globale qui fonctionne hyper bien pour nous. Ouais.
D'accord. C'est Artem qui s'en occupe et certains lecteurs le savent, mais nous préparons une nouvelle app pour les abonnés du club. Christophe, si tu peux nous en dire plus, on en est où du développement?
Oui, alors c'est effectivement pas une double ou une triple problématique, cette application. Donc elle tire profit de la nouvelle architecture qu'on est en train de mettre en place, notamment avec les API. Donc là, elle diffère complètement de l'application actuelle. La deuxième, c'est qu'on a également fait un pari. D'ailleurs, des fois, on ne sait pas qu'on le regrette, mais on s'est lancé quand même dans quelque chose d'un petit peu compliqué, à savoir qu'on veut qu'elle soit entièrement développée en Swift et surtout en Swift UI. Donc, c'est quand même une technologie qui est encore un petit peu jeune et... on se retrouve des fois à ne pas vouloir faire exactement ce que l'on veut. Donc l'application, autrement dit, elle, par rapport à la version actuelle, a été réécrite entièrement. Et donc l'idée, c'est d'arriver dans un premier temps à avoir une application qui est sympa pour les utilisateurs du club. Donc on est en train petit à petit d'y arriver, c'est-à-dire que l'application, elle est à peu près fonctionnelle. Maintenant, on travaille sur des questions d'interface, d'optimisation et d'ajout de fonctionnalités. Ça a pris du temps, mais voilà, ça va finir par arriver tôt ou tard, ne vous inquiétez pas.
Ok.
Je sais pas si Cédric ou Robin ont des précisions à donner sur tout ça, mais voilà.
Bah, on n'est pas loin, ouais. Moi, je l'utilise tous les jours. C'est vrai que, oui, en effet, il y a des petites choses d'un point de vue interface qu'il faut encore régler et décider et trancher. Mais elle tourne. On peut lire des news et commenter.
Ouais.
Bah, ce qui nous rapprocherait d'une bêta fermée, donc sur invitation, c'est pas très loin, quoi.
Ok. Quelles sont les fonctions qui manquent et que vous aimeriez bien voir arriver sur les sites, maintenant qu'ils sont tout refaits? Est-ce qu'il y a des pistes comme ça, de trucs que vous voudriez ajouter?
Des easter eggs. Ah. Plein d'easter eggs. Non, bah en fait, alors sur les sites en eux-mêmes, pas énormément de fonctionnalités, mais surtout ce qu'on aimerait améliorer, donc c'est la partie SSO, donc avec IGN Connect, on aimerait prendre en charge les passkeys. Et aussi la prochaine étape pour la connexion sur les sites, du moins sur la partie web, donc le club et les trois sites historiques, on va dire, c'est de pouvoir maintenir la connexion entre les sites eux-mêmes. Donc si une fois qu'on s'est connecté sur MacG, on peut se connecter sur IGN sans avoir à faire le petit saut par le SSO, même si là actuellement il est presque invisible, ce saut. Quand on clique, on est directement connecté, il y a juste un saut qui est fait. Ce qu'on aimerait à terme, c'est que ce saut soit pas fait du tout.
Ok.
Donc, parce que niveau utilisateur, ça serait quand même plus sympa.
Ouais.
Et puis pousser le truc plus loin, c'est de connecter même les forums à ce SSO, quoi.
Oui.
le SSO, si c'est pas clair pour certains, c'est, on va dire, c'est le mécanisme de connexion qui a été entièrement revu, parce que justement, et ça a été, on va dire, un boulet pendant des années, c'est que le système d'identification de Drupal, il était assez, comment dire, pas tordu, mais voilà, il marchait pas toujours de manière très efficiente. Et donc, voilà, quand on a commencé à tout refaire, à tout revoir, la première chose qu'on a sur laquelle vous êtes penché, c'est donc un système de connexion qui soit efficace. Et donc, voilà, on a maintenant le SSO, donc c'est, on a une page de connexion. Et lorsque vous êtes sur cette page de connexion, vous pouvez vous connecter sur Mac Génération, sur iGénération, sur iGénération, sur Watch Génération, sur le club, enfin, de manière complètement transparente. D'ailleurs, lorsque vous vous connectez depuis cette page-là, vous avez accès aux différents services que l'on propose. Sinon, moi, pour répondre à ta question, Félix, moi, la chose que j'attends le plus, et, c'est... Enfin, on a quand même deux, trois trucs qui sont en gestation qui vont, je pense, être assez appréciés des utilisateurs. La première chose, alors c'est presque une annonce solennelle, c'est presque un truc... Quoi, vous allez vraiment y arriver. On devrait prochainement avoir un moteur de recherche qui marche bien. Toujours été un petit peu une faiblesse. Là, vous travaillez sur un truc. Voilà.
Alors, il est presque prêt et il marche très très bien.
Ok. Bon.
Voilà. Donc, s'il y a des problèmes, ça sera Robin. Vous savez à qui il faudra contacter.
On va mettre mon mail dans le. Oui, voilà.
Le deuxième chantier aussi. Là aussi, je pense que ça fait longtemps qu'on en parle, mais c'est effectivement d'améliorer un petit peu les commentaires. Il y a beaucoup de gens qui nous disent que ce serait bien qu'on ait un système avec des pouces en l'air quand quelqu'un poste un bon commentaire ou ce genre de choses. Donc là, le problème, c'est qu'il faut qu'on arrive à ce que les sites et les applications soient à peu près au même niveau pour introduire un tel mécanisme. Et puis alors, le jour où on introduit ce mécanisme-là, on a un peu peur de comment ça va se passer. Donc je sais pas, là c'est pour un peu plus tard, mais il va falloir qu'on y réfléchisse un petit peu à l'introduction de ce mécanisme, mais c'est en gestation. Et pour finir, alors je sais qu'il y a, c'est un aspect sur lequel qui est régulièrement évoqué, et ça viendra sans doute un petit peu avant, on est en train de retravailler toutes ces histoires de newsletters. Et on se dit que, d'ailleurs, c'est l'une des choses qu'on n'a toujours pas faites. Ce serait bien d'avoir peut-être une newsletter spécifique aux abonnés du Club IGN.
Ce que je disais à Robin, une fois, il faudra un système de captcha pour les commentaires. Vous ferez être obligé d'avoir lu la news, donc il y aura un timer si tu n'as pas lu la news en entier.
Ou un quiz.
Et un quiz à la fin généré par IA.
Généré par ChatGPT qui te fait des pièges, tu sais.
Voilà, c'est ça, ouais. Christophe, je vais te laisser le mot de la fin. On a récemment lancé une cagnotte Ulule pour un magazine célébrant les 25 ans de MacG. Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans?
Ah bah, C'est une surprise, je vais absolument rien te dire, c'est très bien, tu t'attendais quand même pas une réponse.
Même moi, non, je ne sais pas.
tu sais qu'en plus, que tu as un bel article à écrire, je ne sais pas si tu as commencé
ah oui,
à...
Ouais.
Oui, oui, hein.
On m'a teasé quelque chose.
moi, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont joué le jeu. On est complètement stupéfait de la somme qu'on a récoltée. Donc, enfin, voilà. Mais on veut, à travers ce magazine, raconter 25 ans d'histoire de Mac Génération avec de petites et de grandes anecdotes. Voilà, on espère faire un objet qui vous plaira, qui sera joli, qu'on sera fier d'avoir dans une bibliothèque et qui sera tout aussi intéressant à lire et à consulter.
Eh bien, merci à vous trois pour ce petit tour d'horizon des coulisses de Mac Génération. La campagne Ulule pour le magazine se termine le 17 novembre, donc ne traînez pas trop si vous voulez mettre la main dessus. Christophe, merci d'être passé, à bientôt.
De rien, à bientôt.
Robin, à la prochaine.
Salut.
Cédric, à bientôt.
Bye.
Et nous on se dit à la prochaine pour un nouveau podcast. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.
Ciao, ciao.